Des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Julien, le Canada dépasse sa cible d'immigration francophone hors Québec.
Oui, pour une deuxième année consécutive, ça a été annoncé en début de semaine. Le Canada a accueilli un peu plus d'immigrants francophones à l'extérieur du Québec que prévu en 2025. La cible établie par Justin Trudeau et que Mark Carney avait promis de respecter, c'était 8,5% pour cette année-là. Finalement, ça a été de 8,9% des immigrants qui sont arrivés à l'extérieur du Québec qui parlaient français. La Fédération des communautés francophones et acadiennes est contente de ce résultat-là. Elle estime que le gouvernement est en bonne voie pour atteindre le 12% qu'il s'est donné comme cible en 2029. Pour 2026, la cible, c'est de 9%. Un petit bémol dans tout ça, toutefois, si le pourcentage a augmenté, en réalité, le nombre d'immigrants francophones à l'extérieur du Québec a diminué de 1000 par rapport à 2024. Mais pourquoi? Mais c'est simple, c'est parce qu'on a diminué la cible totale d'immigration au cours des dernières années. Donc, on accueille moins d'immigrants au Canada. Même si on augmente le pourcentage de francophones, si on diminue au total, ça fait aussi un peu moins de francophones. Donc, c'est ce qui se passe avec ça.
Plus de détails dans Franco-Presse. Vous nous parlez maintenant de curling. Est-ce que c'est un sport que vous aimez, ça?
Un sport dont je suis proche, je ne joue pas, mais mon père a joué toute sa vie. Donc
Ah oui?
Oui, oui. Au-dessus, après de 80 ans, il joue encore, il est encore meilleur que bien des jeunes.
Wow! Est-ce qu'il a participé à des compétitions importantes?
Peut-être provincial au Québec, mais pas plus que ça.
OK, on le salue. Quel est le prénom de votre père?
Renald.
Renald, qui joue au curling à 80 ans, c'est admirable.
Oui, mais là, on parle du gaboteur qui nous révèle l'existence à Terre-Neuve-et-Labrador d'une ligue de curling queer appelée Odds and Ends. Il y a plusieurs francophones qui participent à cette ligue-là, d'ailleurs. Là, ils ont parlé à quelques membres qui parlaient français. C'est un mélange d'équipes sportives et de clubs sociaux, sécuritaires, entre autres. Oui, c'est pour jouer au curling et se pratiquer, mais on s'amuse aussi, on jase et on fait des rencontres. Le groupe permet aussi de faire de la sensibilisation, notamment lorsqu'ils sont invités à jouer avec d'autres groupes ailleurs, dans d'autres villes, dans la province. Il y a la ligue comprend des Terre-Neuviens, mais oui, aussi, il y a des Acadiens puis des Ontariens qui vivent à Terre-Neuve et Labrador. Puis, on accueille, oui, des personnes queer, mais aussi des alliés de la communauté. Fait que c'est un bel exemple de diversité et d'intégration.
Absolument. Un réseau de santé au Nouveau-Brunswick a finalement embauché 7 médecins du Québec.
C'est le réseau Vitalité du Nouveau-Brunswick, qui est une des régies régionales de santé de la province. Il dit dans l'article qu'elle avait reçu des manifestations d'intérêt de 246 médecins originaires du Québec au cours de l'automne. Tout ça, évidemment, en lien avec la controverse autour de la loi 2 au Québec. Parmi ces 246-là, il y en a 82 qui ont participé à une entrevue. Il y en a 13 qui ont fait une visite exploratoire au Nouveau-Brunswick. Et finalement, il y en a 7 qui ont accepté une offre d'emploi soumise par le réseau depuis l'automne, depuis la crise.
Mm-hmm. 7 de moins au Québec, donc.
C'est ça. Le réseau Vitalité, c'est pas le seul à avoir recruté au Québec. Il y a aussi le réseau Horizon qui couvre une autre partie du Nouveau-Brunswick. De son côté, un peu moins précis, on dit qu'ils ont reçu 124 demandes de permis de médecins québécois, donc, mais que c'était 5 fois plus qu'en 2024. Cependant, il y en a juste 24 permis qui ont été délivrés à des médecins du Québec. Et on nous précise que ça ne veut pas dire qu'ils les ont, qu'ils sont déménagés au Nouveau-Brunswick, mais on ne sait pas combien il y en aurait eu si c'est le cas. Pour le réseau Vitalité, ces embauches-là ont permis de dépasser son objectif de recrutement 2025 de 64%.
On passe maintenant à une nouvelle tirée de Le Voyageur.
Oui, qui nous parle des progrès pour les francophones de Témiscamingue Shores, la ville située à l'ouest du lac Témiscamingue sur la frontière du Québec et de l'Ontario. On entame des démarches sérieuses pour améliorer les services en français dans la municipalité. Compte 25% de francophones ou de gens qui parlent régulièrement français à la maison sur sa population de 10 000 habitants. Il n'y avait pas vraiment de service de politique de bilinguisme dans la ville ou de service en français dans la municipalité. Petit à construire. Là, on ne parle pas nécessairement que le conseil municipal fonctionne de façon bilingue où on traduit tous les documents et les ordres du jour, mais au moins que les communications aux résidents et surtout les communications pour des choses urgentes soient bilingues. Il y a eu une première réunion entre les employés municipaux et l'Association canadienne-française de l'Ontario de tennis quand même, qui a apporté un espoir aux membres francophones de l'association et de d'autres. Le comité est composé, oui, de ces gens-là, mais aussi de personnes qui travaillent à la ville et qui parlent français, qui ont le français à cœur. C'est pas des gens qui sont là parce qu'on les a forcés, c'est des gens qui veulent vraiment améliorer la situation de la francophonie, nous dit-on. Il y a des idées qui sont déjà sur la table, puis en plus, c'est qu'il y a un budget de disponible pour apporter des changements concrets. Donc, c'est pas un comité d'apparence pour faire des belles promesses.
Mm-hmm. Par exemple, des paroles en l'air.
Exactement. Par exemple, on nous dit que pour les prochaines élections, on va encourager les francophones à se présenter pour les postes de conseillers. Puis je vous rappelle que lors de la dernière élection municipale en Ontario, là, qui a eu lieu il y a quelques années, il y a eu une conseillère de Témiscamingue Shores élue qui parlait français, mais c'était la première la première tout court, qui était élue, la première francophone qui était élue au conseil de ville de Témiscamingue Shores.
On mesure le progrès donc.
Exactement.
Un siècle de mobilisation francophone en Alberta.
En 2026, l'Association canadienne-française de l'Alberta va célébrer ses 100 ans. Je vais vous donner un petit point de comparaison. Là, je vous en ai parlé avant Noël. La Fédération des communautés francophones et acadiennes, elle, fête seulement ses 50 ans. Donc, l'ACFA est deux fois plus vieille. Elle est donc créée officiellement en 1926, parce qu'on avait commencé à en parler en 1925. L'ACFA avait pour objectif de permettre aux franco-albertains d'améliorer l'enseignement du français et de renforcer l'influence des francophones dans la province. Puis c'est un bel exemple de persévérance parce que, comme pas mal tous les autres francophones du Canada, les franco-albertains ont obtenu le contrôle de leurs écoles seulement en 1994, donc c'est pour plus que 50 ans plus tard. L'ACFA a également été à l'origine de plusieurs initiatives, là, comme la création de journaux, l'installation des radios francophones, puis appuyer la création de diverses autres associations francophones en Alberta. Puis au cours de ces 100 ans-là, il y a eu plusieurs défis, dont celui du financement qui existe toujours aujourd'hui. L'historien Denis Perrault, dans l'article du Franco, révèle que la trésorerie initiale de l'ACFA en 1925 comptait 20,25 $, ce qui équivaut à 360 $ aujourd'hui.
Bien, bon centième à l'ACFA. La francophonie canadienne remercie François Legault.
Oui, on ne peut pas dire que l'émission de François Legault a eu les mêmes vagues au Canada français, mais qu'est-ce que ça a eu chez vous comme vague dans les médias? Mais en explorant son bilan sur le sujet de la francophonie canadienne, on se rend compte qu'il a fait beaucoup de choses au cours de son mandat pour rapprocher le Québec des autres francophonies. Pour la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, Liane Roy, c'est l'amour de la langue française de M. Legault qui faisait de lui un allié naturel pour la francophonie canadienne. Puis il l'a montré assez vite. Hein. Je vous rappelle que c'est seulement 6 semaines après son élection en 2018 que le gouvernement de l'Ontario a coupé le financement pour la création de l'Université de l'Ontario français et aboli le poste de commissaire au service en français. Puis M. Legault avait rapidement exprimé son appui à la cause franco-ontarienne. Puis en 2021, en pleine pandémie, le gouvernement a organisé le sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. C'était organisé en collaboration avec la FCFA. C'était entièrement en ligne, évidemment. Puis ça a mené... Puis même M. Legault était présent à la fin, à la cérémonie de fermeture, pour signer un document d'intention. Puis un an plus tard, ça a mené une nouvelle politique en matière de francophonie canadienne. Liane Roy ajoute à tout ça aussi la loi 96 parce qu'elle nous dit que ça a donné une responsabilité transversale à tout le gouvernement québécois, responsabilité envers la langue française et sa promotion et son amélioration et sa préservation, ce qui a facilité aussi la relation avec les organismes de la francophonie canadienne. On n'avait plus juste un interlocuteur. Puis finalement, elle fait remarquer que la loi sur la découvrabilité des contenus francophones qui a été adoptée récemment porte le nom de loi sur loi de la découvrabilité des contenus francophones et non de la découvrabilité des contenus québécois. Donc, c'est un autre clin d'œil à la francophonie canadienne.
Et on termine avec une bonne nouvelle qui concerne Lisa Leblanc.
Vendredi dernier, l'artiste acadienne a été faite chevalière de l'Ordre des arts et des lettres de la France. Ce qui est particulier, c'est pas la première, mais ce qui est particulier dans son cas, c'est qu'elle a été adoubée dans la salle qui porte son nom. Donc, la salle Lisa Leblanc dans l'école L'Étoile de l'Acadie qui se trouve dans la petite ville de Rogersville, c'est entre Moncton et Caraquet. Pendant la cérémonie, il y a quelqu'un qui avait entendu parler d'une anecdote et qui l'a racontée. Il disait que quand elle était jeune, à la messe du dimanche, il y avait sa grand-mère qui jouait de l'orgue, son oncle qui jouait de la guitare, puis ses tantes qui étaient dans la chorale. Puis, à peine le chant terminé, on a entendu dans l'église la petite Lisa chanter « We will rock you ».
Donc, c'était ça devait être assez spécial, hein, cette chanson de Queen dans une église.
Effectivement, et ça montre déjà son
son caractère, sa personnalité.
Exactement.
Forte. Ouais.
Et son style différent des autres aussi. Ouais. En musique. Donc, comme je disais, c'était pas la première artiste acadienne à être nommée chevalière. On compte aussi Antonine Maillet, décédée l'année dernière, Viola Légère aussi, décédée il y a quelques années, et Edith Butler, entre autres.
Toujours en vie, Edith Butler, qui a d'ailleurs collaboré avec Lisa Leblanc sur son plus récent album, l'album d'Edith Butler. Ben, merci beaucoup, Julien. Passez une belle journée et une bonne semaine.
Vous aussi.